RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story pour discuter, pour débattre avec les GG, avec les grandes gueules en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier et bon anniversaire.
Merci Alain, merci à tous. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Joyeux anniversaire Olivier, fais chanter, on fait quoi?
Bah oui, qu'est-ce qu'on peut.
Ce matin, il a eu droit à un gâteau d'anniversaire.
Merveilleux.
Alors, phénoménal.
Alors vous savez, les gâteaux anniversaires, la mode grande gueule, c'est un croissant avec une bougie dessus.
Ah
oui,
magnifique.
C'est assez spectaculaire.
Une excuse, mais là, les temps sont durs.
Et en plus, c'est Anaïs qui m'a mangé mon gâteau, qui m'a mangé mon croissant.
Anniversaire aujourd'hui, mariage en trois jours, quel enchaînement.
Semaine.
Oh bah quelle semaine.
Pour un trentenaire, c'est que le début. Hein.
Oui, je me suis bonjour dit, avant 40 ans, il faut y aller.
Bonjour collectif à Barbara Lefebvre,
à
Emmanuel Devilliers, à Sam Zira, qui est de manière assez sympa, effectivement, revient faire un petit tour de piste avec les GG, avec les grandes gueules. Sam Zira, créateur de contenu. C'est l'homme au combien 6 millions de followers.
Un peu plus
de
6 millions d'abonnés sur tous les réseaux confondus. Barbara va adorer.
Bah oui, elle n'est pas sur les réseaux, mais, oui. Je te connais.
Ah, ça pèse dans le game quand même là, 6 millions de personnes qui te suivent. T'as tes obligations de délivrer tous les jours.
De délivrer parce que je le veux, parce que je suis passionné, parce qu'on fait des métiers passion, voilà, et parce que l'information aujourd'hui, on en parlera certainement, mais elle passe beaucoup par les réseaux.
Effectivement.
De plus en plus.
On a un sujet tout à l'heure à 10h sur aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une étude mondiale. Aujourd'hui, les gens délaissent les médias traditionnels pour s'informer davantage sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On reparlera aussi de la fête de la musique, c'est le 21 juin prochain, et Jean-Luc Mélenchon, bah quasiment, il préempte la place de la République à Paris. Il fait une marche contre le racisme, il organise des concerts, bref, la place de la République, c'est moi. C'est un peu ça, et ce sera le 21 juin, on en reparlera tout à l'heure avec vous. Est-ce qu'il a raison ou au contraire, quand même, il est gonflé, Mélenchon? On en discutera au 32-16. On va s'intéresser d'abord à ce qui s'est passé dans le Gers, avec ce restaurateur. Vous avez sans doute entendu ce matin sur RMC, il s'appelle Yannick Piton, le Bastion, c'est son bar. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il a mis la vidéo de l'homme sur les réseaux sociaux, la vidéo de l'homme qui l'a cambriolé.
La première vidéo, j'ai fait ça sur le moment, sur le coup de la colère. Je sortais de la gendarmerie. Voilà, j'ai été porté plainte à Florence. Tous les gendarmes que j'ai vus, je les ai trouvés extrêmement fatigués. Ils font un boulot remarquable, mais quand je suis sorti de là, bon, j'ai compris que j'allais pas forcément être la priorité. Je dis, on prend le téléphone, on fait une vidéo, et puis je vais lui adresser directement un message. Mmh. Le suspect, lui, a été arrêté 2 heures après la diffusion de la troisième vidéo, quand je dévoile son visage. J'ai fait ça en toute connaissance de cause. Mais bon, à un moment donné, on est dans un pays où c'est que ben, on se fait voler, il faut se taire. On se fait violer, il faut se taire. À un moment donné, stop.
Voilà, à un moment donné, stop, c'est ce qu'explique donc Yannick Piton, le gérant du bar-restaurant Le Bastion. La méthode, vous l'avez compris, il a mis sur les réseaux la vidéo de son voleur.
Oui, en plusieurs temps. C'est-à-dire qu'il a fait une première vidéo avec ce message, parce qu'il connaît le voleur, c'est un adolescent de 14 ans, hein, et qui doit donc habiter dans son village. Tu as 24 heures pour apporter tout ce que tu as volé. Alors, il avait volé la caisse, les pourboires destinés aux employés et les recettes de ce point PMU tabac. Donc, tu as 24 heures pour apporter tout ce que tu as volé. Passer ce délai, ton visage et les vidéos de toi en train de fouiller et de voler seront affichées partout. L'ultimatum, visible, a été ignoré par le voleur présumé, et donc le patron en colère a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il a dévoilé les prénoms du suspect et il a dit: le délai est passé, tu n'as rien ramené, tu as fait ton choix, nous on assume le nôtre. Il a été finalement écouté puisque le voleur a été arrêté. Vous savez que ce restaurateur peut être poursuivi pour ses vidéos parce que la loi lui interdit, c'est une pratique qui porte atteinte à la vie privée, interdite par l'article 226 6-1 du code pénal, est passible d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende. Utiliser le terme de voleur pour une personne n'ayant pas encore été jugée revient également à de la diffamation publique et va à l'encontre de la présomption d'innocence.
Un emprunteur.
A-t-il eu raison ou non de faire ça, ce restaurateur?
Oui, il a eu raison.
Du Gers.
Évidemment qu'il a eu raison, mais c'est révélateur d'une absence de fonctionnement de la justice, puisque il est allé porter plainte, mais il a eu le sentiment, avec un peu de bouteille qui le caractérise, que la plainte ne serait pas suivie d'effet, pas par la mauvaise volonté de ses interlocuteurs, mais par un système qui est complètement bloqué et avec au bout du tunnel de ce système des juges qui préfèrent les coupables aux victimes. On en est là. Trop. Et d'ailleurs, si on va au bout du bout, la peine de mort est supprimée.
Non,
sauf pour les victimes.
Tu vas pas nous refaire le couplet sur la peine de mort.
On va pas mettre la peine de mort pour un voleur.
Ça veut dire que du sol au plafond, on marche sur la tête. Et il a eu parfaitement raison. Et quand tu rappelles qu'il peut être poursuivi, ben tous les gens qui nous écoutent, ils sont scandalisés, tout simplement.
Sauf que tu viens de le dire, il peut être poursuivi. Pour l'instant, il n'est pas poursuivi. Donc pourquoi faire des plans sur la comète?
Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe.
Non, c'est pas vrai. Pourquoi en faire un criminel avant l'heure? Il faut prendre aussi en compte le profil de la personne qui est en face. C'est un jeune, il a 14 ans.
Je parle
du voleur. Il a 14 ans. On est dans un état de droit. Il y a des règles aussi à respecter. Je peux comprendre cette forte émotion. Je peux comprendre qu'on ait envie aujourd'hui de se faire justice soi-même. Mais si tout le monde le fait, on va être dans quel état de droit? Et après, ce sera des personnes comme toi qui crieront au scandale et qui diront c'est l'anarchie la plus totale. Où est-ce qu'on est en France? On marche sur la tête. Donc il faudrait savoir deux minutes.
Non, t'es peut-être dans un contexte un peu privilégié où t'es pas confronté à ce type de voyous. Mais il faut savoir maintenant mettre les choses au point.
Mais on y est tous confrontés. Je me suis déjà fait voler un téléphone portable. Je me suis déjà fait voler un sac à main. Je vais faire quoi? Très honnêtement, je vais aller à la police.
Tu n'avais pas identifié comme ce monsieur le voleur directement. À partir du moment où le voleur est identifié de manière formelle, il faut arrêter de peser les zones mouches dans des bas de soie, il faut le mettre en prison.
Pour ça, dans ce cas-là, faut respecter les règles. On va à la police, et si la police, elle ne fait rien, après, après, on passe à l'action.
Mais Sam, c'est ce qu'il a fait précisément.
Oui, il a fait assez vite quand même, il n'a pas attendu non plus.
Il a mis en demeure, apparemment, il n'a pas donné le patronyme de l'individu dont il avait connaissance. Non, cette victime.
C'est un mineur en plus.
Cette victime est poignante, et tous les gens qui nous écoutent sont d'accord avec elle.
Il a 14 ans.
Ce que dit le restaurateur, il l'a écrit d'ailleurs dans une de ses dernières vidéos, il dit trop de gens commettent les mêmes faits encore et encore sans jamais vraiment être inquiétés. Les commerçants, les habitants, les honnêtes gens en ont marre de payer pour le laxisme du système. En plus, on parle d'un mineur et souvent c'est vrai que les mineurs ne sont pas jugés comme des majeurs, donc ils prennent des peines beaucoup plus faibles.
Surtout, c'est un mineur multirécidiviste. Voilà. C'est-à-dire qu'il est connu, archi-connu comme le loup blanc.
Même par le restaurateur.
Par le restaurateur et par d'autres commerçants pour venir régulièrement cambrioler. Précisément, à mon sens, oui. Parce qu'il sait que, les cambriolages sont constants. Hein, on en a un pratiquement toutes les minutes en France. Donc, il sait très bien qu'il va pas être poursuivi. Deuxièmement, il sait que, étant mineur, moins de 16 ans, il sera encore moins poursuivi. Donc, c'est l'impunité dont profite ce jeune garçon, qui doit avoir des parents qui doivent très, très bien s'occuper de lui, puisque, en pleine nuit, il va cambrioler des restaurants. Donc, les parents doivent être très vigilants sur son éducation. Donc, encore des gens qui, à mon sens, devraient être affichés plus encore que leur fils, parce que pour moi, les premiers responsables d'avoir un gamin de 14 ans qui est déjà multirécidiviste en cambriolage, à mon avis, c'est les parents.
Ah donc vous voulez qu'on vive dans une société où on affiche à la télévision maintenant la tête des parents?
Non, je pense que la pomme tombe jamais loin de l'arbre, et que quand on a un gamin de 14 ans qui est déjà archi connu pour cambriolage, c'est que les parents doivent complètement être déficients en termes d'éducation.
Est-ce que c'est déjà pas dangereux de se faire justice soi-même, on peut avoir de bonnes raisons d'avoir envie de le faire?
C'est pas se faire justice soi-même, c'est identifier le voleur pour le mettre dans les mains de la justice comme au Far West.
Mais de toute façon, je crains, hélas, que la police étant débordée, la gendarmerie étant débordée par ces, entre guillemets, petits larcins, mais qui ne sont pas des petits larcins, parce que ça pourrit la vie des gens, ça pourrit la vie de ceux qui travaillent. Oui. Un commerçant, un buraliste, il se lève à 4h, 5h pour bosser. Donc, on se rappelle de celui du boulanger qui se faisait ravager son magasin à 5h du matin par des mecs qui voulaient juste boire des canettes. Donc, ça, c'est des gens qui se lèvent tôt, ils en ont ras-le-bol. Donc, la police, la gendarmerie, moi je peux comprendre, hein, ils sont occupés à tant d'autres choses. Mettre la photo de son voleur quand il est venu réitérer plusieurs fois, excusez-moi, oui c'est là. On avance dangereusement vers un état dans lequel les gens vont finir par se faire justice soi-même.
La seule réserve, et là je vais mettre d'accord Sam et Barbara, c'est qu'il faudrait autoriser cette pratique parce qu'on en est là. C'est un tel laxisme, à la seule réserve de poursuite, si effectivement il a publié, et là je vais dans le sens de Sam, une photo qui ne correspond pas au vrai voleur.
C'est ça le risque, c'est que là il le connaît, donc il se trompe pas, mais il pourrait se tromper. Et donc livrer à la vindicte populaire quelqu'un qui n'a rien
mais
fait.
À ce moment-là, ça pourrait être poursuivi. Non, mais le reste, à partir du moment où il le fait de manière certaine, il a parfaitement raison.
Mais
il devrait être félicité par le préfet, par le procureur de la République. On devrait l'appeler en disant bravo monsieur, merci.
Oui, génial. On l'applaudit. Bravo, vous n'avez pas respecté la loi, vous n'avez pas suivi les codes de la
société. Mais les lois sont tellement mal faites, mon cher Sam.
Mais les lois sont faites pour évoluer. Les lois sont faites pour changer.
Le cambrioleur ne respecte pas la loi, mais profite par ailleurs de son statut de mineur pour être justement dans une une forme d'impunité. Donc là, il y a un problème.
C'est-à-dire bien sûr, que... et le problème, ah, voilà. il est à la source de l'État, justement.
Ah, bah oui, oh, non, mais l'État est occupé en ce moment. Hein.
Non, mais l'État, il est occupé.
Ça fait 10 ans qu'il est occupé.
Barbara disait, tous les combien cambriolages en France, on a un cambriolage toutes les 2 minutes 30.
Toutes les 2 minutes 30. Ah, bah tu vois, j'ai dit toutes les minutes, mais bon, j'étais gentil.
Donc on a Antoine qui veut réagir au 32-16.
Ceux qui tirent.
Antoine qui est gendarme réserviste du côté de la Haute-Savoie. Bonjour Antoine.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a fait ce restaurateur? Alors dites-nous.
Alors moi je suis tout à fait d'accord avec le restaurateur. Elle a bien fait de faire ça. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, elles n'ont plus les moyens de gérer. Il n'y a pas assez de monde pour gérer. Il y a l'État, mais pas les moyens là-dedans. Et puis alors la justice, elle nous aide encore moins. Aujourd'hui, un gendarme, il a plus de paperasse à faire que d'être sur le terrain. Donc en fait, on attrape quelqu'un, le temps qu'on fasse les papiers et tout ça, il est déjà sorti qu'on n'a pas encore fini de faire les papiers. Et ça, il faut que ça s'arrête. Si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on ait du personnel sur le terrain, il faut que ça fonctionne sur le terrain, il faut que la justice, elle fasse son taf. C'est parce que la justice, elle ne fait pas son taf.
Comment vous faites avec un Antoine, avec un mineur de 14 ans, justement, alors? C'est quoi faire son taf avec un mineur de 14 ans?
14 ans, il faut qu'il prenne comme les autres. Quand il cambriole un restaurant ou n'importe quoi, un cambriolage, c'est quand même pas anodin. On force une porte pour rentrer chez quelqu'un, on vole l'argent des gens, surtout là en plus de quelqu'un qui bosse, d'un restaurateur. Il faut qu'il paye comme un adulte.
Oui, mais d'accord, mais Antoine, le fait que on apprend que cet adolescent est un multi-récidiviste, ça veut dire que les peines qu'on lui a infligées l'ont pas dissuadé de recommencer. Donc,
les peines qu'on lui a infligées, il a jamais fait de prison, ce gamin.
Non, bah non, 14 ans, non.
Eh ben, il faut peut-être ouvrir des prisons pour les mineurs, et peut-être que ça réglerait un peu le problème et que les peines soient appliquées.
Oui, mais voyez, moi, il y a une chose qui m'interroge et qui m'inquiète, parce que ce restaurateur publie, je rejoindrai Sam un peu, il publie la vidéo du jeune homme sur les réseaux sociaux.
Oui.
Et en avertissant. Mais imaginez qu'il y ait d'autres personnes qui voient ces vidéos et qui le reconnaissent et qui disent, on va aller lui donner une bonne leçon. Voyez. Et vous vous constituez, en gros, vous y allez à deux.
Alors,
ou trois.
Alors, il l'a fait en deux temps. Il fait une première vidéo menaçant de publier son nom et son visage.
D'accord.
Il ne le fait pas. Non, il dit, t'as 24 heures pour ramener ce que tu as volé.
Et c'est passé les 24 heures qu'il dit son visage et son identité.
Non, c'est bien ce que je dis. Lui, il le fait de manière assez raisonnable.
Gradué, on va dire.
Voilà. En revanche, si tu veux, tu peux avoir un petit groupe de personnes du coin qui se disent, ah mais c'est lui qui nous a cambriolé deux fois, on
si
le reconnaît,
c'est pas le bon,
et même si c'est pas le bon, qui va et qui se fait justice lui-même.
C'est le problème
un coup de poing,
de la justice personnelle.
Tu vois, tu lui mets une correction, le gamin il meurt.
Il a qu'à se constituer prisonnier préalablement, il n'aura pas de problème.
Je vous rappelle quand même.
C'est la faute de la justice, il était multirécidiviste.
Voilà, ben je vous rappelle.
Si la première fois il avait été en prison, eh ben il serait peut-être pas fait casser la gueule après.
Oui, ça,
les,
on sait pas.
Les jeunes qui avaient fracassé le serveur automatique de boisson d'un pizzaiolo à Menton.
Oui, je me
vous rappelez
bien. Oui, bien
il, a, il les avait filmés avec la caméra de surveillance, ils avaient filmé. Oui, on l'avait vu qu'il leur donnait des petits coups pour les chasser parce que il venait régulièrement lui péter son distributeur de boisson.
On en avait parlé ici, oui.
Eh ben, la justice, elle leur a donné 400 euros à rembourser. Voilà. Donc il lui dit, moi j'en ai pour pratiquement 3000 euros. Les parents n'ont pas été sanctionnés alors que c'est tous des mineurs, etc.
400 euros, c'est les parents qui vont payer de toute façon.
Non mais d'accord, mais ça vaut pas 400 euros. Les machines, elles valent 2000 balles. Ça doit être 2000 euros plus les dommages et intérêts. Et les parents payent. Quand vous demandez juste 400 euros alors qu'ils en ont cassé pour 2000 euros ou 3000 euros, ça ne va pas.
Mais ça, il y a
c'est
un
pas
gros
proportionnel.
Problème.
Moi, je veux juste dire une chose. Toujours on dit, oh la loi du talion, c'est pas bien. Les gens ne savent pas ce que c'est la loi du talion. La loi du talion, c'est la base de la proportionnalité de la peine. Quand on dit œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire que la peine, elle doit être proportionnelle à l'infraction. Quand tu casses pour 2000 balles, tu rembourses pour 2000, tu rembourses 2000 balles. C'est pas je casse 10 000 euros et puis comme je suis pas solvable, je suis mineur, papa et maman peuvent pas, alors juste 100 balles et puis tu t'en vas. C'est ça l'impunité.
Ça, c'est un problème qui est récurrent en France et c'est un problème qui est récurrent dans les tribunaux et c'est là où je vais vous rejoindre sur ce sujet-là. Quelqu'un, par exemple, qui va se faire attaquer en justice et qui va être relaxé ou alors qui gagnera tout simplement son procès, il aura engendré des milliers d'euros d'avocats, il ne récupérera jamais rien.
Tout à fait.
Au mieux, il récupérera 100 euros, 1000 euros.
Oui,
c'est intrinsèque à notre pays, c'est un gros problème.
Bien
mais ça, il y a des choses à faire, il y a des évolutions à faire. Et oui, s'il a cassé pour 2000 euros, les parents doivent rembourser pour 2000 euros.
Ah bah,
mais la loi du talion, c'est aussi c'est l'État qui est en charge de rendre cette justice. C'est pas toi de la rendre. C'est
que quand l'État est défaillant, on est le citoyen.
La loi du talion, c'est pas une loi individuelle.
Mais quand l'État est défaillant, regarde l'affaire Liana, une affaire beaucoup plus grave, bien entendu, mais on a dit à peu près la même chose. C'est-à-dire face à un État défaillant qui n'est pas capable de protéger une petite
petite fille d'un prédateur sexuel, la tentation sera grande un jour de régler ses comptes.
Mais parce qu'il n'y a pas de moyens, c'est une histoire de moyens.
Mais Antoine, je voudrais vous poser une question, Antoine, puisque vous êtes gendarme réserviste aujourd'hui. Est-ce que vous sentez une population aujourd'hui à cran prête à se faire justice elle-même, Antoine, autour de vous, par exemple?
Oui, de plus en plus. Parce que quand on va sur des agressions ou sur des cambriolages, les gens, ils achètent des chiens de garde, ils achètent des armes, légales ou pas légales d'ailleurs. Et puis ils sont prêts, alors pas forcément des armes létales. Hein. Il y a beaucoup de gens qui achètent des armes avec du gun-cogne, des espèces de balles en caoutchouc.
C'est légal, ça?
Oui, le gun-cogne est légal, mais c'est toujours pareil. C'est légal de l'avoir à la maison, mais c'est pas légal de l'utiliser. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas d'arme en face de vous, vous lui tirez dessus, même avec ça, c'est pas légal.
Antoine, je vous remercie d'avoir été avec nous. Inutile de vous dire que du coup, ça s'enflamme au 32-16. On va continuer de l'évoquer. Donc, ce restaurateur qui a publié la vidéo de ce jeune de 14 ans qui l'a cambriolé plusieurs fois. Premier avertissement. Si tu ne rends pas ce que tu m'as volé, je publie. Il a publié. Le jeune a été arrêté et on s'est aperçu qu'à 14 ans, il était effectivement multirécidiviste. Et ce qu'a dit ce restaurateur ce matin sur RMC, il a dit, il va falloir se réveiller, dire les choses parce que sinon, ça peut changer en France. Venez en discuter avec nous. Il est 9h20 dans un instant. Tiens, l'ami Adèle, qui est traiteur du côté de l'Oise, ça lui est arrivé aussi. Puis on aura Hervé, chef d'entreprise, où il estime qu'on a en fait deux pays aujourd'hui. Un pays où les gens bossent et se font voler. Et puis à côté de ça, le laxisme de la justice. Restez avec les grandes gueules, il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. C'est le ras-le-bol qui a poussé ce restaurateur à publier la vidéo de son cambrioleur âgé de 14 ans, multirécidiviste. Il a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Le cambrioleur a été arrêté, mais c'est son coup de colère. C'est de dire on est dans un pays maintenant où finalement on a l'impression qu'il ne nous reste plus que ça face à une espèce de laxisme de la justice. Et c'est de nouveau au cœur de notre discussion. Souvenez-vous qu'on avait déjà le cas de ces commerçants. En général, ce sont des commerçants vêtements qui ont publié déjà les photos aussi de leurs voleurs.
Aussi,
des
franc-prix,
tu as raison. Des supérettes parce qu'ils en ont assez d'être volés et ensuite de revoir toujours les mêmes qui reviennent. Adèle, notre ami traiteur du côté de l'Oise est avec nous. Bonjour Adèle.
Bonjour à toute l'équipe.
Salut Adèle. Tu t'identifies à ce restaurateur ou pas Adèle?
Ah bah totalement, à 100%, mais moi ça m'est déjà arrivé. Donc quand j'avais mes restaurants à l'époque, j'avais eu le cas où je faisais la livraison de sushis à domicile. On a une cliente qui commande, le livreur arrive devant la porte, devant sa maison, elle ouvre la porte, elle lui arrache le sac des mains, elle referme la porte. Le livreur, il revient, je lui dis non, pas de violence, tu reviens. Sincèrement, je voulais aller lui casser la porte. On me dit non, tu peux pas, tu sais, t'es patron, ça se passe plus comme ça. Je vais porter plainte, et tu sais quoi, classer sans suite. Donc ok, donc elle m'a volé.
Parce qu'elle payait à la livraison, c'est ça?
C'est ça, il avait payé à la livraison à l'époque. J'avais mes propres livreurs, c'était pas Uber Eats des livreurs.
Donc elle a pris le colis sans payer.
Elle a pris le colis, elle a reclaqué la porte. Et puis voilà, donc moi on m'a dit non, c'est, tu sais, on vit en société civilisée, tu peux pas aller devant chez elle comme ça, va porter plainte. J'ai porté plainte, ça a été classé sans suite. Donc cette personne-là a volé une commande. Moi je me fais chier à travailler pour que d'autres personnes m'arrachent les commandes et travaillent gratuitement. Donc la deuxième fois où ça m'est arrivé, j'avais mon assistante qui me disait c'est une commande dans un quartier, c'est le bâtiment du fond, ça pue. Je me ferai pas avoir deux fois. Deuxième fois, j'y vais avec une sacoche, on est parti à deux scooters, à deux livreurs. Le premier qui a la commande, la deuxième, j'avais une matraque télescopique et ce qu'on appelle les extincteurs, là, tu sais, les brosses gazeuses, là, qu'ont les policiers.
Ouais,
et ça a pas loupé. Quatre lascars qui sont sortis du bâtiment. Donne-nous ta commande, donne-nous votre sacoche, tout ce que vous avez sur vous. Tu vois, ça va pas se passer comme ça. Je vais pas faire un dessin de ce qui s'est passé par la suite. Et ça a été réglé comme ça, et pas de problème. La justice par soi-même, malheureusement, ça marche. Je suis désolé.
Adèle, c'est Charles Bronson.
Non, c'est pas Charles Bronson. C'est quelqu'un qui défend son business quand tu fais un emprunt de
500 euros. Je comprends.
Et que t'as des procureurs qui classent à ton suite, mais qui ont le temps d'écrire des bouquins comme celle que t'as reçue hier et de faire des adaptations à la télé. chacun son business après.
Non, mais ils classent sans suite parce que j'imagine qu'ils se disent c'est des petites affaires, on va passer à autre chose.
Mais il n'y a pas de petites affaires.
Non, mais je suis d'accord pour la personne qui subit ça.
Attends, vas-y Adèle, parce qu'on n'a pas entendu.
J'ai un copain à moi, procureur, j'en ai parlé. Il dit, mais comment ça se passe? Il m'a dit, tu sais, t'arrives le matin, t'as 40 dossiers sur ton bureau.
Ben oui, voilà.
Alors tu traces. Alors tu sais, lui et sa petite livraison de sushis, on s'en fout, quoi.
Mais c'est exactement
donc,
ça.
Mais c'est le problème de Liana, de la
parce que nous a dit la procureure hier.
Patrick Bruel, c'est parce que c'est Flavie Flamand qui a parlé. C'est au petit bonheur la chance maintenant, les classements sans suite. Hein.
J'allais vous le dire.
Connu, soit t'es pas connu.
J'allais te le dire, Adèle, c'est au petit bonheur la chance parce qu'il y a certains parquets, tu sais pas pourquoi ils te diligentent des plaintes et des enquêtes très rapidement. Donc faut croire qu'ils ont des ordres. Non, mais il y a des ordres. Il y a des ordres qui viennent. Il y a des ordres qui viennent des procureurs généraux ou du garde des Sceaux ou de je ne sais où pour que certaines plaintes aillent très vite.
Il paraît que c'est interdit.
Aillent très vite. Oui, c'est ça. Et mon œil, c'est quoi? Bon, voilà.
Il paraît que c'est interdit.
Non, c'est
mais
bon.
Adèle.
Maintenant, j'y crois plus à ça.
Adèle, moi, ce que je veux savoir, c'est du coup, tu es prêt à recommencer, à y aller toi-même à chaque fois que tu seras éventuellement arnaqué?
Je vais faire quoi? Sans pitié, bien sûr. Sans pitié, je vais faire quoi? Moi, je vais travailler, mais moi, j'ai la chance de savoir me battre et de savoir me défendre. Mais j'imagine la pauvre.
Oui, mais ça peut mal tourner. Adèle, imaginons. Non, mais Adèle, pardon.
Moi, les gens, ils vont me voler tous les jours parce que le problème de la France, parce que tu crois que la France, elle est respectée parce que c'est la France ou parce qu'on a l'arme nucléaire? Non, mais c'est aujourd'hui, si moi, demain, je laisse passer ça, je me fais voler tous les jours.
Oui, mais Adèle, le risque.
La force de dissuasion.
Adèle, le risque, c'est d'arriver avec les Lascars, donc en face, une arme est sortie, ça peut déraper et ça peut finir en drame d'un côté ou d'un autre.
Donc, moi, j'ouvre une affaire et je me fais voler tous les jours.
D'accord, mais ça serait même pire pour toi, Adèle, si jamais.
Tu prenais une balle.
Ou tu donnais un coup mortel à quelqu'un.
Ou tu le prenais.
C'est toi qui. Tu pourrais te retrouver en prison.
Il y a des gens aujourd'hui qui se suicident parce qu'ils perdent leur affaire, parce qu'ils perdent l'URSA, parce que leur affaire ne marche pas. Il y en a, ils développent des cancers parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont des lascars devant chez eux. Non, mais il y a un moment, c'est à l'État de gérer tout ça au départ.
Mais ce qui explique Adèle est incontestable, et ça explique aussi l'affaire qui nous rassemble là avec le jeune
du Gers, hein.
Voilà, parce que tout ça n'est fait que parce qu'il n'y a pas de justice. S'il y avait la justice, Adèle, il serait serein.
Ce qui explique aussi le vote aujourd'hui, un Rassemblement National qui soit en tête aussi des sondages.
Ça me fait penser aussi.
Le parti de l'ordre, ça dénote aussi ce que l'on entend.
Le Rassemblement National n'est pas le parti de l'ordre.
Qu'il se présente, l'ordre et la sécurité.
C'est comme ça qu'il se présente, mais moi je pense que c'est dangereux de faire un amalgame entre des larcins et des crimes, des vols qu'il peut y avoir dans notre société, et le Rassemblement National qui réglerait tous les problèmes. C'est un problème, et oui, parce que je trouve que dans ce cas-là, ça change quelque part un petit peu le débat. Ça veut dire qu'en gros, il y a un parti qui mentirait.
Non, pourquoi il monte le Rassemblement National? Il monte politiquement à cause d'une vacance du
pouvoir
sur
d'autres sujets. Parce que des Françaises et des Français pensent certainement que grâce au Rassemblement National, ça permettrait d'avoir plus de sécurité. Mais ça, je crois que c'est un gros leurre.
Et ce que vient de souligner Alain Marchal est une déferlante à la fois dans les profondeurs de la mer française et en surface. Et c'est ce qui peut amener... C'est ce qui peut amener à l'élection de Bardella en
l'occurrence. Mais pas qu'en France, hein, regardez partout en Europe. Alors, je sais que les médias en parlent peu, mais que vous alliez voir en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie dernièrement, il y a encore eu, alors que c'est Meloni au pouvoir, il y a eu des manifestations en Italie. Donc, je crois qu'il y a un besoin de sécurité pour la France. En dépit de la question des moyens qui est important, il y a vraiment besoin d'une réorganisation très sérieuse de la justice. Mais vraiment une réorganisation de pot en comble. Je suis désolée, il y a des parquets. Pour moi, il y a des parquets qui servent quasi à rien. Je veux bien la délinquance idéologique, etc. Ok. Enfin, il faudrait mettre plutôt la justice à fond sur la justice du quotidien, sur tous les petits larcins, toute cette impunité des atteintes aux biens et aux personnes. Les atteintes, quand on aura réglé déjà les atteintes aux biens et aux personnes, on aura le temps de s'occuper du reste, de un tel. Il a dit ci, l'autre elle a dit ça, l'autre elle s'est fait en photo sur ci, l'autre elle s'est fait en photo sur ça, on s'en fout. L'essentiel c'est menace sur les biens et les personnes, déjà ça ce serait déjà beaucoup.
Adèle, je te remercie d'avoir partagé.
Je peux juste rajouter quelque chose s'il te plaît.
Vas-y.
Alors c'est un parallèle qui est, c'est comme ce que disait tout à l'heure Olivier, mais comme pour l'affaire Liana là. Si les autres papas là, des autres victimes avant là, ils lui avaient cassé la figure, peut-être on n'en serait pas arrivé là aussi.
Adèle, je te remercie d'avoir été avec nous. On a Hervé qui est chef d'entreprise donc en Gironde. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Vous partagez ce qui vient d'être dit ou pas, Hervé?
Je trouve que, vous savez, la devise de la justice, c'est protéger, décider et sanctionner. Voilà, c'est la devise, j'ai regardé ça, la devise de la justice française. Ce que je disais, c'est que la petite France, entre guillemets, en province, en ruralité, même dans certaines villes de moyenne dimension, aujourd'hui se sent délaissée. se sent délaissé. Et à partir de là, je l'ai regardé, les trois vidéos, je les ai suivies. Je suis tombé sur cette histoire. Il a prévenu. Moi, ce que je comprends pas, c'est que même les parents, ils auraient pu venir. Les gens auraient pu personne fait rien. Donc, à un moment donné, il a simplement dit ce qu'il a fait. C'est la même chose que le bijoutier qui se fait braquer, qui va sortir une arme. C'est la même chose que les squatteurs qui vont dans les maisons où on peut pas les déloger. Ouais. Des situations comme ça et des sujets comme ça, on en a à l'appel.
Oui, parce que par exemple sur les squatteurs, et c'est vrai que c'est incompréhensible, c'est-à-dire que si on squatte ton logement et si tu réagis pas tout de suite, c'est la croix et la bannière pour récupérer ton logement, parce qu'il faut passer par des procédures très longues, la justice qui effectivement met du temps à répondre, et donc il est préférable d'agir tout de suite, c'est-à-dire d'aller déloger ton squatteur toi-même, mais au risque que ça se termine mal.
Oui, mais aujourd'hui, au risque que ça termine mal, combien il y a de papas qui a dit si ça arrive, ce qui est arrivé à la petite Liana à ma fille, moi je m'en occupe. Il y a un côté émotionnel qui est quand même incroyable, parce que je vais vous dire, après,
voilà, tout
la problématique
très
aujourd'hui, c'est vous travaillez, vous avez un commerce, vous êtes propriétaire, vous êtes en province, vous essayez de vous en sortir, et c'est compliqué, pour différentes raisons. Hein. On ne rentre pas dans aujourd'hui le secteur d'activité, l'économie, l'entreprise, et en plus de ça, dans le quotidien des gens, c'est de plus en plus compliqué, donc oui. C'est pas peut-être, je pense que le Rassemblement National, pour toutes ces raisons-là, des gens qui étaient moyens aujourd'hui se disent ça suffit.
Voilà. Tous les gens pour qui on a voté. Génial, sauf que le Rassemblement National choisit les minorités qu'il décide de défendre.
Non, donc,
ça veut dire que vous êtes pour la sélection des minorités. Regardez un petit peu ce que vote le Rassemblement National, un petit peu au Parlement européen, par exemple, contre les thérapies de conversion pour les homosexuels. C'est génial. Alors on est dans une justice à deux vitesses. Vous avez envie d'avoir un parti qui protège les personnes que vous estimez être des criminels et que vous estimez avoir une gueule qui vous correspond pas. Et ben c'est génial. Si c'est ça la France que vous voulez, moi j'en veux pas.
Oui, mais là où Hervé a raison, c'est
le Rassemblement National, il n'y a pas de raisonnement là-dedans.
Il y a une telle demande d'ordre que même les gens de droite commencent à se foutre pour certains.
Et Sarkozy qui parlait du Karcher, ça n'a rien fait du tout. Pourtant, il n'était pas d'extrême droite, alors arrêtez vos conneries.
Le constat, c'est qu'on a une armada de couilles molles au gouvernement depuis 10 ans.
Depuis plus que 10 ans.
Ça fait plus que 10 ans.
Hervé, je voudrais qu'on termine avec le témoignage de William. William qui est en Charente-Maritime. Bonjour, William.
Paul, t'es bien masculine.
Oui, vous êtes avec nous, William.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour, parce que vous vouliez apporter votre exemple personnel, William.
Oui, il y a une quinzaine d'années, j'ai été cambriolé. Je rentre du cinéma avec ma femme et mes enfants en bas âge et j'ai trouvé quelqu'un en train de régler la télé dans mon salon. Voilà, je l'ai attrapé, je lui ai mis une petite raclée, gentil, hein, ça n'a pas marqué, et je l'ai sorti de la maison. Ils étaient deux, hein, j'en ai eu qu'un. Je l'ai sorti de la maison et je l'ai attaché à l'arbre devant chez moi. La belle surprise, c'est que deux jours après, j'ai reçu une convocation par la gendarmerie disant qu'il y avait une plainte pour séquestration.
Bah oui.
Fantastique.
Séquestration à l'arbre.
Scandaleux. Hein.
Allez-y. Et alors, comment ça s'est passé, William, ensuite ?
Ça s'est bien terminé, puisque j'ai été relaxé, j'ai fait prévaloir le fait que je rentrais avec mes enfants, que voilà.
Vous avez dû quand même vous défendre, quoi.
Vous avez dépensé donc des sous avec un avocat.
Exactement.
Voilà, cet argent ne vous a pas été rendu.
Et le cambrioleur ?
Voilà.
Alors, c'est pas terminé, parce que le lendemain de ce cambriolage, c'était des gens de... Alors, je vais schématiser, mais je fais pas la différence entre les gitans sédentaires, non sédentaires, tout ça, les manouches, les tout. Bon, je sais pas faire la différence. Le père est venu le lendemain en me disant « Ouais, j'ai pas élevé mon fils comme ça. » Ok, très bien. Je lui dis « Effectivement, tu l'as pas élevé à se faire gauler. » Et là, il a commencé à monter un peu en tour. À l'époque, j'étais militaire, j'avais mon armement à la maison, et je lui ai expliqué que la prochaine fois, on ne retrouverait personne. Les 10 années suivantes, toutes les maisons autour, je ne passerai pas l'acte, hein, je n'allais pas tuer quelqu'un parce qu'il me cambriolait. Mais les 10 années autour, toutes les maisons autour de chez moi ont été cambriolées.
Sauf la vôtre.
Sauf la mienne. Donc, à un moment donné...
Donc, la menace a porté ses fruits.
Mais bien sûr. À un moment donné, il faut montrer les dents. Il faut montrer les dents et leur dire que ça ne peut pas continuer. Et voilà. En fait, après, il faut avoir... Je ne veux pas parler de charisme, mais il faut avoir la volonté de le faire. Je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas.
Oui, il y a des gens fragiles qui ne peuvent pas. Quand les personnes âgées qui se font souvent cambrioler, malheureusement, qui sont les premières victimes...
On est d'accord.
On est d'accord. Mais les gens sanguins qui savent, moi par exemple, je suis très sanguine, je sais qu'il vaudrait mieux pas que je me laisse aller, par exemple.
Mais les gendarmes autour de vous, qu'est-ce qu'ils ont dit, William, alors, avec votre histoire, puisque alors, vous êtes en zone gendarmerie, j'imagine.
Oui,
donc,
oui, tout à fait. Ouais. À l'époque, j'étais au nord de Bordeaux, et en fait, le gendarme, il m'a dit, bah, merci. Clairement. Il m'a dit, enfin, des gens.
Il y a un gros problème, alors.
Ouais. Et quand ils m'ont vu deux jours après, on est désolé.
Oui, mais c'est pas très rassurant que le gendarme vous dise merci parce que finalement, c'est aussi un aveu d'impuissance.
Oui, c'est un aveu d'échec.
C'est un aveu d'impuissance de leur part.
Mais complètement.
Ils sont débordés.
William
tout cas, tous les commerçants, hein, quand ils se font voler, cambrioler, quand l'URSSAF vient réclamer le pognon, là, l'URSSAF, elle tient pas compte, hein, du fait qu'il a déjà été cambriolé quatre fois dans l'année. Parce que là, l'URSSAF, quand elle vient de taper, elle vient bien de taper. Donc ça aussi. Hein, c'est-à-dire pas considéré par la police, pas considéré par la justice, mais pas non plus par les services fiscaux. Voilà.
Merci à vous, William, de cet exemple. Merci à Hervé, merci à Adèle, et entre autres, d'avoir.
À ce monsieur là du Bastion là, qui, oui. C'est top.
Yannick Piton, c'est son nom, il était en direct ce matin.
Il devrait être invité à la table du préfet à midi.
Peut-être même à Versailles avec Macron et Donald Trump.
Oh, par pitié, non.
À la table d'honneur. Est-ce qu'il a eu raison de faire ça, ce restaurateur du Gers? Est-ce que vous le comprenez, oui ou non?
Oh, bah tiens.
Un petit 96%. Un petit 96%. Bienvenue au GG, Sam. Il est 10h moins.
Alors,
dans un instant, avec les GG, avec le grand gueule, le on s'en fout pas. Et puis, je vous rappellerai comment gagner aussi la prime de match. Il y a encore eu des buts. La prime de match ne cesse de grandir avec la Coupe du Monde. Et attention, il y a une sacrée somme à gagner. 53 000 euros. Restez avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules. Attention, les Bleus jouent ce soir. Match à suivre si vous n'êtes pas, si vous êtes dans la voiture. Match à suivre sur RMC, bien sûr, radio officielle de la Coupe du Monde. Les Bleus affrontent le Sénégal. Et c'est la prime de match qui est là à gagner 53 000 euros. On est parti d'une cagnotte de 30 000 euros qui a grossi de 500 euros. À chaque but marqué, on en est à 53 000 euros. Attention, les coups de fil vont arriver. Peut-être pour être appelé, il faut envoyer but par SMS au 732-16. Vous serez dans la banque de données. Et ensuite, c'est un appel en aléatoire, un appel au hasard. Et si vous avez le montant de la cagnotte, de la prime de match, les 53 000 euros sont pour vous. Et alors, comme c'est du gain de jeu, c'est...
Zéro impôt.
C'est le moment. Allez-y, envoyez but par SMS au 732-16 et la prime de match, elle sera peut-être...
On sent que le France-Sénégal de ce soir te met en joie.
On est parti même dans les couloirs
du fera un petit concours de pronos, tiens, tout à l'heure. On mettra ça en suite, podcast.
Bah, même tout de suite, je crois.
Tout de suite.
Vous voulez faire le concours pronos?
Oui, allons-y. Anaïs,
allez, Joseph.
Non, allez. C'est l'heure du on s'en fout pas, oui. Et c'est dedans.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout. On s'en fout pas.
Bon, on va reprendre l'émission depuis le début pour qu'Anaïs Sen, elle a rien écouté. Bonjour Olivier, bon anniversaire. Bonjour Samzira.
Oui.
Bonjour à tous.
Je passe un petit bonjour quand même à un auditeur, un fidèle auditeur qui s'appelle Woody, qui nous écoutait en podcast depuis Québec, où il a passé 2 ans. Il rentre en France, il est de retour et il va nous écouter dorénavant.
Salut,
nous regarder
Woody.
sur RMC Story en direct. Bon, les GG, l'entrée en liste des Bleus, donc ce soir à la Coupe du Monde 2026, France-Sénégal, à suivre dès 21h, donc sur RMC, radio officielle du Mondial. Est-ce que vous allez regarder ou pas, Sam?
Mais jamais de la vie. Ah non, mais voir des hommes qui courent après un ballon, ça me plaît pas du tout. Ils
ont
leurs cuisses peut-être.
Ah oui, alors mais
il y a des jolies cuisses.
Ah non, mais bien sûr.
Il y a des jolies cuisses.
Bien
mais par
sûr.
Contre, ceci étant, c'est le seul moment où les électeurs de Mélenchon, les électeurs de Macron, enfin les anciens, ceux qui restent, et les électeurs du Rassemblement National crient ensemble. Et ça, c'est plutôt cool.
C'est pas mal vu.
Emmanuel, vite.
On va regarder. Sur RMC Sport, c'est interdit de pas regarder le match.
Ah bah oui, sur RMC évidemment, Barbara.
Non, moi je suis comme Sam, ça m'intéresse pas tellement.
Même pas
oh
les
là
cuisses.
Là, qu'est-ce que vous êtes boring.
Dire, parce qu'ils ont des grosses cuisses.
Bah, ils sont quand même des beaux gosses quand même.
Si t'es plutôt tablette de chocolat.
Oui,
ah mais il y a
oui,
des beaux
oui,
gosses
bon,
quand même.
Oui, bon, enfin bon, évidemment. Bon bah voilà,
on
c'est
pas
un
que
four,
de l'histoire géo, Barbara.
Mais en fait, oui, on a des grandes gueules qui sont pas très sport.
Mais vous
pas
êtes
très
déconnectés.
Foot. Pas très foot, non.
Non, mais attendez.
Moi, je dis 2-1 pour la France ce soir. Match rude, mais 2-1.
Moi, je pense que ce sera un match difficile. Moi, parce que les premiers matchs pour les favoris pendant la Coupe du Monde, on le voit, hein, l'Espagne qui a été tenue en échec. C'est compliqué, il faut se mettre en route. Mais je vois une victoire de la France 2-0.
Moi, je dis 1-1.
Moi, je dis 4-1 en faveur de la France.
Oui. Juste pour le plaisir, ça, pour le plaisir.
2-4.
Je joue le Sénégal à la France.
Non, attendez, le Sénégal, c'est quand même les champions d'Afrique.
Oui, donc, c'est une belle équipe.
Oui, pas de la rigolade. Hein. Tout à fait. Bah, on est vice-champion du monde aussi. Bon, les GG.
Mais ils ont perdu. Hein. On l'a donné au Maroc finalement.
Enfin bon.
Et au vu de l'actualité au Sénégal, je ne souhaite pas qu'il gagne.
Bon, oui, les footballeurs sont pas responsables.
Éric Ciotti accuse le ministre des Transports de menace. L'incident se serait passé dimanche dernier en marge d'un déplacement sur la Côte d'Azur d'Emmanuel Macron. C'est le Canard Enchaîné qui révèle cette information. Est-ce que vous vous en foutez ou pas? Je vous explique tout après. Barbara?
Non, je m'en fous pas.
Sam?
Je m'en fous pas du tout.
Emmanuel?
Non plus.
Alors, le maire de Nice accueillait la délégation présidentielle. Philippe Tabarot, ministre LR des Transports, aurait traité Éric Ciotti de nabo. Le ministre sera ensuite approché de lui. Il lui aurait soufflé à l'oreille, je cite, « Je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens ». Cette phrase apparaît dans un signalement adressé au procureur, hein, selon les équipes d'Éric Ciotti, et sollicité hier soir par le service politique de RMC. Le cabinet du ministre Tabarot n'a pas répondu sous fond de campagne pré-sénatoriale, hein, si je me ne trompe pas.
Oui, puis de guerre en plus locale,
guerre à droite,
des gens qui se connaissent parfaitement.
Non, mais c'est intéressant, c'est que Éric Ciotti, avec le succès qu'il a rencontré à Nice et son parti UDR, est peut-être en train de supplanter les LR, enfin, la droite traditionnelle dans le sud. C'est ça qui se joue.
Est-ce des manières de faire, mon cher Sam?
Moi, ça m'étonne pas plus que ça, parce qu'on constate que dans notre pays, en France, les politiques passent plus de temps à se menacer qu'à régler les problèmes des Français. Ça, c'est un problème, et c'est pour ça que je ne m'en fous pas. Ils critiquent les caïds, mais ce sont des caïds.
Oui, c'est un comportement de caïd.
Ouais.
Emmanuel.
Bon, il est d'usage pour quelqu'un en politique qui est pas très grand d'être traité de nabo. Je me souviens à propos du président Sarkozy.
Oui.
Que comme il était originaire de Hongrie par sa famille, il était qualifié le nabo de Buda. À cause de Budapest. Donc, pourquoi pas pour Éric Ciotti? Je crois que quand on est aux insultes verbales, c'est au moins qu'on n'ait pas une violence physique ou plus grave. Quand on est homme public, il faut accepter de se faire insulter.
Par ministre? Enfin, pardon.
Bah, j'ai été à Barou, les ministres, c'est les mêmes qui, quand même, matin, midi et soir, font la leçon aux Français.
Exactement,
faut
donner l'exemple.
Mais non, mais quand les ministres se transforment comme des petits racailles, excuse-moi, il faut le dire.
C'est ce que les avocats appellent des propos d'humeur, et au demeurant privé, donc il n'y a pas lieu de s'en formaliser.
Ça s'appelle une insulte.
Bah, oui, après,
une insulte, oui. La violence verbale, c'est de la violence
avocale. C'est clairement une menace physique. Alors bien sûr, personnelle, elle n'est pas publique, donc on n'est pas sur l'injure publique, etc. Mais enfin, il le menace, en plus en lui envoyant des Géorgiens. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a contre les Géorgiens? Je ne sais pas. Alors, en plus, vaguement... quand même.
Il lui a envoyé Adèle, ça coûtera peut-être moins cher.
Voilà. Non, mais je pense qu'Éric Ciotti, qui après s'être fait traiter de Benito, se fait traiter de nabo, il y a un moment, ça va, il a le droit de dire qu'il en a marre de se faire menacer, insulter. Si les LR sont amers parce que effectivement Ciotti a fait un choix qui apparemment, pour l'instant, parce que tout peut tourner, hein. Bah oui, mais enfin c'est les LR qui ont choisi d'aller serrer la paluche à Macron, voilà, bah ils tombent avec Macron. Ciotti a fait un autre choix. C'est une question aussi de stratégie politique. Faut avoir un peu de pif en politique. Et ils en veulent à Ciotti. Moi, je pense qu'il a eu raison. En tout cas, même si ça n'aboutit pas d'un point de vue judiciaire, et personnellement, je serais pour que ça n'aboutisse pas. La justice a autre chose à faire que de s'occuper de ce genre de petites choses. Mais il a eu raison, en tout cas, de le faire savoir. Et grâce au Canard Enchaîné, il y a toujours moyen de faire savoir.
C'est vrai que c'est pas normal comme insulte. C'est une injure publique. Mais je pense que c'est sur fond de très grandes connaissances des deux personnes depuis longtemps. Et quand on se connaît très bien dans une entreprise ou autre, c'est là qu'on arrive à s'insulter.
Moi, je vous parle comme ça.
Mais non, c'est grave, mais il ne faut pas le faire dans une entreprise, même si on se connaît très bien.
Ouais. Moi, je vous parle comme ça.
Ils se connaissent tous localement, ils étaient dans la même famille politique, et puis, si tu veux, c'est toujours la suite de la guerre entre le camp Estrosi et le camp Ciotti qui continue.
Ouais, mais t'en as un qui est ministre, donc on
bien peut, sûr,
on,
ça
on
se fait
se
pas.
Non, il
est ministre, et puis il menace, non, sûr, parce qu'il n'y a pas que l'injure.
La menace.
Je vais te faire disparaître, pardon.
C'est une menace de mort.
C'est une menace de mort. Moi, je trouve, vous prenez trop ça à la légère, Emmanuel.
Mais
venant d'un ministre, mais non, après c'est une question d'exemplarité, ces gens-là
c'est politique,
avec les Géorgiens,
enfin, en politique, en France, oui. Ils passent notre temps à nous faire la leçon,
c'est une injure publique, voilà, répréhensible, bien sûr.
Dans ce cas-là, il faut avoir un comportement exemplaire quand tu fais la leçon.
Oui, mais à ce moment-là, il faut porter plainte.
C'est ce qui va se passer.
Non, je pense que la justice a autre chose à faire.
Sinon, qu'il se fasse justice lui-même, comme tout à l'heure, vous étiez pour.
Bon, les GG. Pour financer la rénovation du pont de l'île d'Oléron, le département de la Charente-Maritime souhaite mettre un péage pour faire payer les travaux aux usagers finalement. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, mon cher Sam ?
Mais on s'en fout pas du tout.
Emmanuel ?
Oui, c'est mineur, on s'en fout.
Ah bon ? Barbara ?
Non, on s'en fout pas.
Et oui, il faut trouver quand même 58 millions d'euros d'ici 5 ans pour sécuriser l'ouvrage. Argent que le conseil départemental n'a pas. Les élus de Lille ont donc voté pour la semaine dernière. Le pont d'Oléron a déjà été payant jusqu'en 1991. C'est maintenant au département d'acter véritablement le retour de ce péage. Ce sera, je crois, en octobre prochain. Sam ?
Non, c'est bon. On paye déjà assez d'impôts pour les infrastructures. Nos impôts sont censés servir à ça. Et on nous dit qu'il faut encore payer pour participer alors qu'on participe déjà, qu'on a participé hier, qu'on participera demain. Il faut arrêter de nous faire participer à tout continuellement. Mmh. Au bout d'un moment, c'est ça aussi qui crée ce sentiment de colère chez les Françaises et les Français.
Tu payes beaucoup d'impôts ?
On paye tous beaucoup d'impôts. Tous, à notre échelle, on paye énormément d'impôts. Mmh. Et c'est normal. Moi, je suis pour, moi, je suis content.
T'as quel statut,
je suis pas
toi,
parti
Sam ?
M'exiler à Dubaï.
T'as un statut ?
Moi, j'ai une SASU.
T'as une SASU.
J'ai une SASU et les impôts, crois-moi, je les paye. Alors, et je suis fier de les payer, les impôts.
Société anonyme.
Société en action simplifiée.
Ouais. Mais il faut arrêter de nous faire payer pour des infrastructures qu'on finance déjà. Mmh. C'est ça que je suis en train de dire.
Barbara.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Sam. Enfin, ça montre bien la situation calamiteuse de nos finances publiques.
Oui, on charge de l'argent partout.
Et de nos finances publiques, de l'État, des départements, des régions. Cette décentralisation a été faite n'importe comment. Et aujourd'hui, l'État est content de se désengager d'ouvrages aussi importants. Le pont d'Oléron, c'est pas le petit pont d'Avignon, tout cassé et tout pourri. Le pont d'Avignon, on va être content.
Le pont d'Avignon, il est historique.
Oui, d'accord, oui. Parce que vous voyez ce que je veux dire.
Mais non, mais
le pont d'Oléron est essentiel. Est essentiel à la jonction, à de nombreux travailleurs qui l'empruntent tous les jours. Donc, je ne comprends même pas que l'État se soit désinvesti au point de demander aux usagers de payer.
Le pont de l'île de Ré est payant.
Non, mais c'est scandaleux.
Il y a un
c'est
péage. Je suis... Vous avez déjà été arrêté.
Non.
Vous prenez
moi,
le péage.
Je suis d'accord avec Sam. On paye suffisamment d'impôts.
Aussi en Normandie.
Le régalien.
C'est une façon
aussi. Les infrastructures. C'est ce qui fait de la France un pays développé. Donc maintenant, ça suffit. On n'a pas à demander aux usagers encore de payer.
Oui, mais c'est une façon de réguler aussi le trafic, notamment sur l'île de Ré. Bah oui, c'est face au surtourisme, etc. Le fait de faire payer, ça limite le nombre de gens qui vont s'en saisir.
On te fait payer pour rénover le pont.
Oui.
Donc je suis désolée.
Il y a ça aussi.
Ça fait partie des grands travaux, des grandes infrastructures. C'est pas aux contribuables de payer.
On parle d'Oléron, on parle pas l'île de Ré. C'est joli Oléron, je connais pas l'île de Ré.
C'est très joli, très très joli.
Emmanuel,
port absolument charmant.
Et les huîtres,
avec les
marais
d'Oléron,
et très bonne moule.
Oui. Mais il paraît que les crabes, j'ai un ami qui est disparu il y a 2 ans, qui était un spécialiste de l'île d'Oléron, et il soutenait une thèse qui va amener à la réflexion de nos auditeurs. Il soutenait le fait que les crabes à Oléron ont moins de goût que dans les années 60 et 70.
Eh bien, faisons payer aux contribuables.
Voilà.
C'est vraiment un spécialiste.
C'est une niche. Eh bien, profitons-en pour sauver les crabes.
Salut sa mémoire.
Sauvons les crabes d'Oléron. Arrêtons de les manger. Peut-être qu'ils auront meilleur
goût. Allez, dans un instant, suite des GG. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.